franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La marche de l'histoire, c'est bien souvent une procession funèbre. Les historiens marchent sur des morts couchés. Aujourd'hui, nous allons parler des gens qui meurent debout, qui meurent pour leurs idées, avec Alain Garrigaud qui vient de publier aux Belles Lettres un livre qui porte ce titre. Bonjour Alain Garrigaud.
Bonjour.
Vous vous excusez, excusez-vous donc auprès des auditeurs, vous excusez auprès de vos enfants et de votre femme d'avoir été pendant de longues années absorbé par cette idée grave.
Ben oui, il y a des sujets plus réjouissants que la mort, d'autant plus que nous sommes dans une société où la mort est un tabou. Bon, il n'y a pas de raison véritable, enfin, il n'y a pas de raison sérieuse, voilà. Point. Donc, il faut s'attaquer aussi à ce genre de sujet, même si par moments, c'est assez désagréable et on fait supporter une tension, parce que c'est vrai, on ne lit pas des témoignages de dernière minute, de dernière seconde, sans dégâts, enfin, sans souffrance pour soi, et donc on le fait supporter aux autres.
On n'entend pas impunément, et pourtant on le fait depuis le mois de décembre dernier, le récit par sa sœur de la mort de Mohamed Bouazizi, qui, dans une ville obscure de Tunisie, a déclenché les révolutions arabes que l'on sait.
C'est ici, devant le gouvernorat, que mon frère a été humilié. Une policière l'a giflé devant tout le monde au milieu de la rue. Elle avait trois assistants qui l'ont frappé au sol. Il a hurlé encore et encore, puis il est allé acheter une bouteille d'essence.
Aujourd'hui, le portrait de Mohamed Bouazizi recouvre la statue de Ben Ali. Le suicide du petit marchand ambulant a déclenché un mouvement dans tout le monde arabe.
Aujourd'hui, mais demain ou après-demain, vous dites, Alain Garrigaud, que le temps joue avec le nom des hommes comme une bourse joue avec les valeurs.
Oui, parce que il y a des héros méconnus, il y a des héros qui ont été célèbres et qui sont oubliés. Moi, je me suis préoccupé. Le départ, c'est un départ. Le personnage d'Alphonse Baudin, qui connaît aujourd'hui Baudin, alors que les enfants dans les cours d'instruction civique étaient émerveillés par l'histoire du sacrifice de Baudin.
Allons-y, Alphonse Baudin, après le nom de Mohamed Bouazizi, venons au 19e siècle. Il y a un hôtel, Grand Hôtel Baudin, une étoile, au coin de la rue de la Roquette et du boulevard Le Drurolin. C'est à Paris. Vous-même, vous n'aviez pas repéré cet hôtel.
Non, vous venez de me l'apprendre. Je trouve ça très bien, parce que moi, je suis allé dans le millénaire précédent, quand je travaillais au début là-dessus, je suis allé au carrefour où a été esquissée une barricade où est mort Baudin. Et il y avait encore la vieille plaque commémorative de 1879, on lisait à peine. Je sais que quand M. Delannoy a été élu maire de Paris, il y a eu une nouvelle plaque toute neuve qui a été posée à la place.
Alors, 1851, on parle beaucoup des barricades dans la marche de l'histoire, c'est en écho avec ce qui se passe sur les places arabes d'aujourd'hui. 1848, la révolution, ensuite assez vite la réaction, coup d'État du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, quelques représentants du peuple, c'est le nom de l'époque des députés, se dressent contre lui. On a, juste avant le coup d'État, augmenté la rémunération quotidienne, l'indemnité des représentants du peuple. Et alors, parmi les représentants du peuple, Victor Hugo, votre guide.
Le faubourg de Paris se soulève. Victor Hugo se dirige vers les barricades. Les députés Victor Schœlcher et Baudin sont là.
Baudin s'écrie : vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. C'est alors que, sans autre chose que son écharpe, Baudin s'avance. Soldats, regardez cette écharpe. C'est le symbole de la loi. C'est l'Assemblée nationale visible. On vous trompe. Rentrez dans le devoir. C'est un représentant du peuple qui vous parle et qui représente le peuple, représente l'armée.
Un coup de feu part. La troupe riposte. Sur la barricade, Baudin est tué.
Téléfilm d'Axel Clévenot, 2002. Alors, dans la description de Victor Hugo, c'est peut-être plus précis. La barricade, elle est faite notamment d'un omnibus renversé. Puis le corps de Baudin se dresse sortant de l'omnibus.
Oui, elle est esquissée, la barricade. Ils n'arrivent pas à trouver les matériaux pour barrer complètement la rue. C'est tout à fait improvisé. Et Hugo en dit beaucoup moins que ce qu'on vient d'entendre. Il est beaucoup plus sobre parce qu'il arrive en retard, tout simplement. Il a été retardé, puis c'est un type assez courageux. Il s'arrête sur place de la Bastille où sont les troupes et puis il insulte carrément les généraux. On l'arrête. Je suis Victor Hugo. Et on le regarde interloqué, il passe. Effectivement, il arrive trop tard. Et toute sa vie, il aura une sorte de sentiment de culpabilité parce qu'il considère que c'est lui qui devait mourir là. C'est quand même une barricade exceptionnelle. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a trois personnes qui sont des acteurs de cette barricade, sont tous les trois au Panthéon.
Schœlcher, qu'on a cité.
Schœlcher pour l'abolition de l'esclavagisme en 1848. Victor Hugo à sa mort en 1885 et Baudin en 1889 pour le centenaire de la Révolution française.
Alors avant le Panthéon, il y a le dictionnaire. Sur cette barricade exceptionnelle ou à proximité, coup de chance, il y a Pierre Larousse. Et Pierre Larousse va faire... une notice sur Baudin, mais il a quand même beaucoup de mal, parce que si c'était Victor Hugo qui était mort, il y aurait des pages et des pages. Oui. Mais là, Baudin, on arrive à 20 lignes, parce qu'il a été médecin des pauvres, bien sûr. Il a publié une brochure sur l'inflammation des intestins.
Oui. C'est peu. C'était un médecin des pauvres, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait payer les riches et puis qui ne faisait pas payer ce qu'il ne pouvait pas payer. C'était classique au 19e siècle avant la sécurité sociale. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il est là, Pierre Larousse, c'est vraiment un carrefour de célébrités que cette esquisse de barricade. Bon, il est là et lui aussi, on ne sait pas s'il porte les armes ou quoi que ce soit. On sait qu'il est républicain, c'est un jeune républicain. Et quand il lance sa grande entreprise du dictionnaire encyclopédique, grand dictionnaire universel du 19e siècle, pour être exactement précis sur le titre, eh bien, ça commence par A et B, un dictionnaire. C'est bien connu, il va lui falloir 15 ans, je crois, quelque chose pour le rédiger. Mais il arrive à B, B, A, U. Et là, son petit témoignage, un panthéon de papier, tout petit panthéon, mais quand même. Il ne faut jamais oublier qu'en la réalité, le 5 décembre 1851, Baudin a été enterré en catimini avec la police qui surveillait pour que surtout il n'y ait pas de manifestation. Et là, en quelque sorte, il s'acquitte d'un devoir, Pierre Larousse. Alors, c'était en 1867, mais 1868, coup de théâtre, on redécouvre Baudin au cimetière Montparnasse, on redécouvre sa tombe qui a déjà été, d'ailleurs été déplacée à cause des travaux Haussmann. Et à ce moment-là, arrive l'affaire de la souscription Baudin, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'opposants à l'Empire, qui sentent que l'Empire, ça tourne mal, sans faire allusion à d'autres régimes aussi, où on sent que ça commence à tourner mal, lancent une sorte de devoir aux morts, dans une époque où on sait rendre devoir aux morts. Il ne faut jamais oublier que les cimetières parisiens sont des lieux de pique-nique au 19e siècle, avec les femmes, les enfants, les hommes qui pique-niquent à côté des tombes. Et là, on lance la souscription Baudin. Et certains même ont cette élégance de souscrire pour 25 francs.
Alors, comment d'un homme ordinaire fait-on une statue ? C'est ça le héros civique ? C'est l'honnête homme ?
Ben oui.
Ça peut être vous, ça peut être moi.
Oui.
Et il va devenir un héros. Mais alors, si l'idéal, c'est l'homme ordinaire qui peut devenir un héros parce qu'il est animé par une flamme cachée, ça serait encore mieux d'avoir, je ne sais pas moi, un adolescent comme Mohamed Bouazizi ou bien comme...
Je suis né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et non à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau.
Gavroche.
Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. C'est la faute à Voltaire. Leur poudre va au moineau, c'est la faute à Rousseau. Je suis pas propriétaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le rue.
Les Français ont peut-être eu la faiblesse d'oublier Baudin, ou le ressusciter, Alain Garrigou, jamais Gavroche.
Bien, Gavroche, c'est Hugo dans Les Misérables, puis en 1857, donc alors qu'il est en exil, se rappelle les jeunes garçons qu'il a rencontrés sur les barricades en 1851, c'est-à-dire exactement à ce moment-là, 3 décembre, 4 décembre et 5 décembre 1851. Il les a rencontrés, c'est les enfants des rues. Il les fait parler dans Histoire d'un crime. Bon, ça l'a beaucoup marqué.
Ces enfants des rues, ce sont les héros des enfants... exaltés soldats, morts pour la Révolution, Alors, des noms oubliés.
Alors, Barra, oui, oui, Viala. Barra, Viala, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs années pendant la Révolution française pour découvrir l'héroïsme chez les vivants. On s'occupe chez les morts, pardon. On oublie les morts. Pourquoi ? Parce que le modèle, c'est le modèle du héros guerrier. Et les soldats de troupe, si vous voulez, ils sont de basse extraction, etc. On oublie leur corps. À peine inhume-t-on les officiers. Les grands, évidemment, oui. Bon, et pendant la Révolution française, par exemple, la prise de la Bastille. Il n'y a pas de héros dans les morts de la Bastille. L'Assemblée se préoccupe, l'Assemblée constituante se préoccupe de donner pension aux veuves et aux orphelins. Et c'est progressivement, c'est en fait avec une histoire de quelqu'un, encore un héros oublié, le lieutenant Dessy, qui se souvient du lieutenant Dessy lors de l'émeute de Nancy en 1791. Alors, on ne commence pas sur ce registre. Mais par contre, au moment de la Convention, le comité de salut public, effectivement, commence à lancer, si on peut dire, des héros. Ça va avec des nouveaux slogans. Par exemple, sur des papiers officiels, liberté, égalité, fraternité ou la mort.
Mais des héros de 15 ans.
Et voilà, ce sont des jeunes soldats. C'est-à-dire, c'est comme si, y avait une forme de nature de l'héroïsme. C'est-à-dire des jeunes innocents qui découvrent, comme par une révélation, la puissance de l'idée. C'est pas tout à fait ses idées ou leurs idées, c'est de l'idée. Tout au XIXe siècle, c'est célèbre l'idée, enfin, des idées, c'est-à-dire des idées désintéressées, fondamentalement désintéressés, contre les intérêts, contre les puissants.
Alors, Barra Viala savait pourquoi il combattait. Je vous ai interrompu quand vous décriviez les enfants des barricades de décembre 1851, tels que les a décrits Victor Hugo. Il y en a un qui refuse de quitter une barricade sur le point de tomber. « Je n'ai ni père ni mère, dit-il, autant mourir qu'autre chose. »
Oui.
Sait-il ce qu'il fait ?
Eh oui. Je pense, pour avoir, comme Hugo, un peu fréquenté cette idée, évidemment, par l'expérience, l'empathie, si je puis dire. Mais il faut essayer de faire un peu de place à l'empathie dans l'histoire, on est bien obligé. Hein. Je pense que cet héroïsme, c'est un mélange de plus rien à perdre, Mohamed Bouazizi, plus rien à perdre. C'est un mélange aussi de conviction, c'est un mélange de révolte, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire assez. Là, ça passe pas. Je me coucherai pas. Et il y a tout ça. Et je vais vous dire même autre chose, il y a de la peur.
Et je peux vous dire autre chose ? Je peux instiller un peu de doute, parce que j'imagine qu'il existe chez les auditeurs. Alors laissons le Grand Hôtel Baudin au coin de la rue de la Roquette et du boulevard Le Dru-Rollin. Allons, ce sera ouvert mardi 15 mars, l'exposition Brassens à Paris encore, à la Cité de la Musique.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Quel point final, point de suspension à Georges Brassens avec Alain Garrigou aujourd'hui. Oui, mourir pour des idées, ça peut, quand on meurt pour des idées, être enseveli dans l'oubli, le cas de Baudin. Ça peut provoquer le scepticisme. Le bon docteur Freud, par exemple, avant Brassens, il se posait des questions sur ce thème.
Disons que lui, il ne comprenait pas, parce que tout simplement, il ne comprenait pas. ne comprenait pas parce qu'il était, il se plaçait dans un raisonnement utilitariste. Il ne voyait pas quel intérêt ça pouvait y avoir à mourir. Faut quand même dire que Freud a perdu un fils à la guerre. C'est quand même pas rien. Et il reprend ce problème à 20 ou 30 ans, je ne sais plus, d'écart. Et il se heurte toujours, dans ces deux cas, au mur de l'utilitarisme. Il pense comme un économiste. C'est triste. Il aurait dû être plus réaliste et se dire que bah, y a des gens qui le font et des gens qui ne sont pas fous, qui sont des gens, au contraire, très raisonnables. Et qui pense qu'il vaut mieux mourir pour des idées que de vivre, par exemple, dans le déshonneur. Moi, je trouve ça pas moins intelligent que s'accrocher à la vie à tout prix, que survivre au prix de n'importe quoi.
Alors, il a connu l'expérience par la mort de son fils de la guerre. Alors, essayons maintenant de confronter le thème du héros civique qui vous est cher, Alain Garrigou, avec celui du héros dans la guerre. Je reviens au monde arabe. Benghazi, 20 février. Mahdi Ziou, 49 ans, cadre dans une compagnie pétrolière, père de deux enfants, décide de jeter sa voiture, qu'il a chargée de lourdes bonbonnes de gaz, contre la caserne de Benghazi. Il la lance à pleine vitesse, la voiture force le premier portail et explose en fracassant le second. Les insurgés se ruent dans la brèche. Description de cette caserne et des combats autour d'elle par le docteur Gérard Buffet.
La plus grande caserne de Benghazi a été prise d'assaut par la population, avec des centaines de morts. Et les gens de la caserne avaient entassé les morts devant pour impressionner la foule. Ça n'a pas arrêté la foule. Ils sont passés outre, ils sont passés dessus. Au début, ils étaient avec des morceaux de bois, des gourdins, des crochets. Et le troisième jour, ils ont pu récupérer des armes, je crois, dans une caserne, ce qui est bien qu'ils avaient des armes. Alors que les autres étaient armés jusqu'aux dents. C'était David contre Goliath, quoi.
Alors, la mort de Mahdi Ziou, redisons son nom, une mort exemplaire et solitaire. Mais maintenant, on passe au degré de la mort de masse, des centaines de morts entassées par les partisans de Kadhafi au pied de la caserne. Alors, de ces morts-là, on ne va pas se souvenir, puisque les partisans de Kadhafi ont fermé l'accès à la mémoire de ces morts en les entassant, en les déshonorant.
Alors, abîmer les corps des morts, on trouve ça dans l'Iliade et l'Odyssée.
Donc,
Achille, on laisse décomposer le corps, on le tourne pour l'abîmer, etc., pour lui enlever l'accès à la gloire. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'héroïsme antique. Hein. Mais n'oublions pas que les héros antiques ne croient pas au paradis et prétendent à la gloire éternelle dans le souvenir des autres. Donc le héros doit être embelli et ceux qu'on tue pour les empêcher d'accéder à cette gloire terrestre, on abîme les corps. Alors il y a deux choses dans ces pratiques, je dirais, rituelles barbares sur les corps. Il y a une pratique, on va dire, d'intimidation, qui peut être celle, par exemple, des pègres, par exemple, les narcotrafiquants arrachent aujourd'hui au Mexique la peau, écorchent les visages, enlèvent toute la peau, visage, pour faire peur aux gangs adverses. C'est-à-dire, c'est une pratique d'intimidation. Puis, il y a autre chose, c'est enlever toute gloire à celui qu'on a tué. Alors, ce qui est neuf, on va dire, dans l'héroïsme citoyen, c'est-à-dire cet homme ordinaire hein, qui peut accéder à l'excellence, à la suprême vertu, qui ne peut guère le faire que dans la mort, parce que c'est difficile hein, quand on est n'importe qui, d'accéder à la gloire ou d'accéder simplement à l'excellence, sinon qu'en y perdant ce qu'on a le plus cher, c'est-à-dire sa vie. Eh bien, là, c'est autre chose que abîmer le corps des morts. C'est retourné par le héros civil.
Oui, mais ce n'est pas facile dans une guerre civile. De la Libye, maintenant, les médias disent, à tort ou à raison, qu'elle est en guerre civile. Quand il y a une guerre civile, prenons une vraie guerre civile, l'Espagne, la mort sert à intimider l'adversaire. Et donc, elle ne compte plus.
Ah, il y a eu pendant la guerre d'Espagne des sacrifices qui étaient des sacrifices absolument héroïques. Quand on voit ceux qui, par exemple, nous ont fait sauter sur des chars parce qu'ils n'avaient pas d'armes. L'héroïsme citoyen, n'oubliez pas, est un héroïsme, si vous voulez, du rapport de force asymétrique. C'est l'héroïsme des faibles contre les forts. En Libye aujourd'hui, si bien compris, ce n'est pas une guerre civile, ce sont surtout des mercenaires embauchés à prix d'or par Kadhafi qui tirent sur le peuple. Bon, je suis désolé, mais il peut y avoir dans un certain nombre de cas, enfin je suis désolé parce que je ne peux pas oublier la souffrance des gens quand même, des familles, de ceux qui ont perdu des proches, enfin, etc. Donc je répète, je suis désolé, mais il peut y avoir des milliers de héros, oui bien sûr. D'ailleurs, dans tous les grands événements historiques, il y a eu des milliers de héros. Alors beaucoup sont anonymes, ils ont fait vivre quelque chose de plus que l'idée spéciale, etc. Ils ont fait vivre... si je puis dire, l'idée un peu tautologique, l'idée que l'idée, ça valait quelque chose. Et qu'il pouvait y avoir des valeurs au-dessus de nos propres vies. Et ça, ce n'est pas une découverte anodine.
Alors l'héroïsme citoyen, c'est ça qu'on pourchasse dans votre livre, Alain Garrigou, Mourir pour des idées, c'est aux belles lettres, se différencie de l'héroïsme guerrier traditionnel. En quoi ça se différencie du martyr religieux ?
Eh bien, quand au XIXe siècle, on a construit, voire la fin du XVIIIe, notamment aux États-Unis, hein, pendant la guerre d'indépendance, on a construit ce personnage, cette figure de l'excellence, on le construisait forcément contre d'autres modèles. Et l'autre modèle principal, il faut quand même le dire, qui était un modèle contraire, c'était celui du martyr religieux. Alors évidemment, ça n'allait pas. Alors, il y a un critère très simple, apparemment, c'est que le martyr a l'espoir d'une vie éternelle. Le héros civique se bat pour sa vie sur Terre et pour la dignité de la vie sur Terre. Même la liberté, même des pauvres peuvent se battre pour la liberté. On sait que Lénine disait la liberté pour quoi faire ? Genre dire c'est un luxe pour riches. Ben non, on le voit bien aujourd'hui dans les pays dont nous parlons. La dignité, ça vaut peut-être plus que la vie. Vivre, d'accord, mais pas à n'importe quel prix.
En parallèle avec le nom de Mohamed Bouazizi que nous évoquions au début de cette émission, les bonzes du Vietnam. Alors, c'était dans les années 60, 1963, au moment de la lutte contre le régime Diem. Les bonzes, on ne peut pas les présenter comme des martyrs religieux, parce qu'ils n'ont pas la conception de la vie éternelle que vous citiez tout à l'heure.
Après la mort par le feu de trois bonzes, c'est une religieuse de 20 ans qui, hier matin, s'est livrée aux flammes. La jeune fille s'est immolée dans la petite ville de Ninh Hoa. On l'a vu descendre de voiture, elle venait de Nha Trang et prendre la direction de l'école. Derrière le préau, elle est tombée à genoux, puis elle s'est arrosée d'essence. Et ce matin, peu avant l'aube, c'est un bonze de 71 ans qui s'est fait lui aussi brûler vif à Hue, dans la cour de la principale pagode de la ville. Ainsi, c'est au total 5 bonzes, au cours de ces deux derniers mois, qui se sont offerts en holocauste.
Tchécoslovaquie, émotion, désarroi après la tentative de suicide par le feu de Jean Palach.
Émotion de la population, les Pragois hier ont lu dans les rues des affichettes reproduisant le testament idéologique de Jean Palach et les justifications de son geste. Désarroi dans les milieux étudiants, d'autant plus que 15 d'entre eux se déclarent prêts à s'immoler à leur tour pour protester contre l'occupation étrangère en Tchécoslovaquie.
Donc en parallèle, les bonzes du Vietnam, Jan Palach, 69, après l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie qui écrasait le printemps de Prague.
Oui, c'est ce qu'on appelle des suicides de témoignage. Il ne faut jamais oublier que dans martyr, ça vient du grec martyros, témoin. Bon. Donc ce sont des suicides de témoignage. Bon, les bouddhistes croient à la métempsychose en tout cas. Donc chaque vie doit être perfectionnée, aller au bout de la perfection. Donc je ne sais pas, ceux dont témoignaient les bonzes au Vietnam vers 1963, c'était une revendication de dignité par rapport à la dictature de Diem, etc. Jan Palach, vous venez de le dire. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, alors Jan Palach, je ne sais pas ses racines religieuses. Ce que je peux dire pour Mohamed Bouazizi, c'est que dans un pays musulman, il ne faut pas oublier que le Coran condamne le suicide. Donc c'est un geste typiquement laïque, c'est celui de revendication de la dignité humaine. L'épisode qui l'amène à ce suicide est typiquement celui-ci. C'est la question de la revendication de la dignité. Alors je crois que dans tous les cas, ces suicides de témoignage sont des sortes d'exemples. On retrouve le sens du vieux mot grec « exempla ». C'est-à-dire comment témoigner par l'exemple et par le sacrifice de ce qui est le plus cher, qui est sa vie.
Tout de même, le plus beau spectacle que l'homme puisse donner à l'homme, c'est le spectacle de la mort pour une idée.
Non, c'est le pire, mais quand il n'y a pas d'autre solution, je peux comprendre parfaitement. Bien sûr, c'est le pire, mais après tout, les dictatures sanguinaires dont nous avons parlé, c'est pas ça le pire.
Mais Yann Palach, il savait, parce qu'il était informé ce qu'il faisait, et on a su qu'il aimait la vie. C'est-à-dire que il faut aimer une certaine qualité de la vie pour accepter de mourir.
Je pense que ça a été, je ne suis pas le premier à le dire, et donc je le répète, parce qu'on ne le répétera jamais assez, dans des sociétés où on idolâtre la vie, je dirais la survie, dans ces suicides de témoignages, en fait, derrière l'horreur que c'est, la souffrance, tout ce qu'il y a derrière, je crois que c'est un hymne à la vie, oui.
Il vaut mieux, vous citez un résistant qui écrit pour sa famille avant son exécution, il vaut mieux perdre la vie que les raisons de vivre.
C'est ce qu'ils nous disent.
Oui, c'est ce qu'ils nous disent, parce que nous, nous sommes dans un studio de France Inter. Vous avez écrit votre livre, vous ne manquez pas de le souligner, entouré des questions de vos enfants, mais dans le silence de votre cabinet de travail.
Ô vous, les boutefeux, ô vous, les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
L'Expo Brassens, Cité de la musique à Paris à partir du 15 mars. Vous êtes habitué de toute façon à répondre à l'argumentation de Brassens.
Oui, Brassens a écrit cette chanson que j'aime bien par ailleurs, dans l'époque post-68 art. Je crois qu'il avait été un peu malmené par des jeunes étudiants un peu excités. Je n'envisagerai pas la question des idées politiques de Brassens, qui ne me conviennent pas tout à fait, même si sa musique et sa poésie me convient. Il était dans une sorte de relativisme anarchiste. Moi, je dirais mourir d'accord, mais pour des idées. Plutôt que mourir pour des idées, mais de mort lente. Parce que mourir pour de mort lente, je suis désolé, mais c'est le pseudo-idéal que cette société nous propose.
Cette histoire, cette marche de l'histoire, cette émission commence. Vous nous donnez un conseil, professeur Alain Garrigou, il peut y avoir une histoire sans héros?
Ben justement, non. Tout ce à quoi nous croyons, la science, par exemple, a eu ses héros, Giordano Bruno. La politique, c'est même inimaginable qu'elle n'ait pas des héros. Je veux dire, après tout, au fronton de nos mairies, nos monuments, nous avons liberté, égalité, fraternité. Il y a des tas de gens qui sont morts pour ça. Alors, on ne peut pas, d'un côté, se réclamer d'un certain nombre d'idéaux, de réclamer la dignité, tout simplement, dans nos vies, d'autant plus qu'on continue à la refuser à beaucoup de gens, s'en réclamer et récuser ces héros, les oublier, et imaginer qu'ils sont morts une fois pour toutes, que c'est fini, bref, que l'histoire est finie. Ça, c'est une gigantesque supercherie.
L'histoire des héros ne parviendra pas à disparaître de l'horizon de notre monde de l'intérêt et elle promet une seconde vie. C'est le sous-titre de votre livre « Mourir pour des idées » aux éditions des Belles Lettres. Alors je vous présente, je ne sais pas si elle est convaincue, toute l'équipe de la marche de l'histoire. Elle opinait quand même du bonnet à l'idée d'aller à l'exposition Brassens à partir du 15 mars à la Cité de la Musique. Jacques Sigal, Camille Poux, Jalaguier, Franck Olivard, Frédéric Martin et aujourd'hui à la technique, Éric Morin en compagnie de Thibaut Deschamps.